Bonsoir à toutes et à tous. Édition spéciale ce soir après le vote des Britanniques en faveur d'un départ de l'Union européenne. Témoignages, reportages, analyses. Les équipes du Grain à Moudre et de la rédaction vous proposent de décrypter les enjeux du Brexit. Partout sur le continent, les déclarations des chefs d'État se multiplient pour déplorer ce choix des citoyens d'outre-Manche et acter le revers que vient de subir l'Union européenne. Alors, un désaveu, certes, mais est-ce pour autant la fin de la politique communautaire ? Certains y voient l'opportunité de redonner une chance au projet des pères fondateurs, quitte à en revoir les conditions. Les Européens en seront-ils capables ? Brexit, l'Europe au pied du mur, c'est jusqu'à 19h. Et tout de suite le journal présenté par vous, Anne Fauquemberg. Bonsoir.
Bonsoir. Le journal nous emmène d'abord à Londres. Drôle d'ambiance entre les pros et les anti-Brexit ce soir. Après le vote pour le out, l'ex-maire de Londres, Boris Johnson, hué devant chez lui. Le Premier ministre David Cameron annonce par ailleurs sa démission. Nous serons en direct avec notre correspondant Franck Madvon. Les bourses européennes terminent en forte baisse ce soir, mais les banquiers londoniens gardent la tête froide. Reportage de Solène Lehen à La City. Y a-t-il par ailleurs un risque de déstabilisation des marchés à plus long terme ? Nous avons poser la question à l'analyste financier Anton Brender. Nous irons aussi en Allemagne où Angela Merkel parle d'un revers pour l'intégration européenne. Enfin, à Bruxelles, c'est un bras de fer qui s'annonce avec la Grande-Bretagne. Pas question de traîner. Les dirigeants européens, évidemment blessés, demandent à Londres d'engager au plus vite la procédure de sortie.
Dans le reste de l'actualité, Anne, le chômage, légère hausse de 0,3%.
Plus 10 000 chômeurs de plus en catégorie A. Pas d'embellie marquée après 2 mois de baisse consécutive, nous dit Jean-Marc Chardon. Et puis le procès de Jérôme Cahuzac va pouvoir reprendre en septembre. Le Conseil constitutionnel a tranché la question prioritaire de constitutionnalité déposée par ses avocats. Le Royaume-Uni n'a peut-être jamais aussi mal porté son nom. C'est un pays au visage complètement fragmenté qui ressort de ce scrutin qui a marqué la sortie du pays de l'Union européenne. L'ancien maire de Londres, Boris Johnson, tête de proue de ce vote out, a été hué devant chez lui tout à l'heure par les anti-Brexit. Tandis que les eurosceptiques font la fête en ce moment même dans le quartier d'Avering. Bonsoir Franck Madvon.
Bonsoir.
Première conséquence politique de ce vote pour le Brexit, la démission du Premier ministre David Cameron est actée.
Oui, David Cameron n'avait d'autre choix que de démissionner. C'est lui qui a voulu ce référendum. La défaite du Remain est d'abord la sienne. Il était ému d'ailleurs à la fin de son discours devant le 10 Downing Street ce matin. David Cameron démissionne un an seulement après une brillante victoire aux élections générales. Ça semble à peine croyable. Il restera toutefois en poste pendant 3 mois, le temps de désigner un nouveau leader qui nommera un gouvernement pour négocier les conditions du Brexit avec l'UE. Alors, quel leader ? Très peu de noms circulent et un seul se dégage vraiment. Vous l'avez cité, Boris Johnson, l'ancien maire de Londres, leader du camp du Leave, vise le poste depuis longtemps. Certains le soupçonnent même d'avoir fait campagne pour le Brexit dans ce but, par opportunisme. Boris Johnson s'est exprimé tout à l'heure. Un discours très solennel de premier ministrable, disons. Il appelle à ne pas précipiter le Brexit.
The electorate have searched in their hearts.
Les électeurs ont cherché dans leur cœur et ont répondu qu'il était temps pour eux de reprendre le contrôle et de se retirer d'une Union européenne devenue trop lointaine, trop opaque et pas assez comptable de ses décisions vis-à-vis des gens qu'elle est censée servir. Après ce vote pour la sortie de l'UE, il est vital de souligner qu'il n'y a pas lieu de se précipiter. Et comme l'a dit le Premier ministre, rien ne va changer à court terme, à l'exception du fait que le travail devra démarrer sur la meilleure manière de respecter le choix du peuple et de sortir ce pays d'un système supranational. À ceux qui pourraient être inquiets chez eux ou à l'étranger, je veux dire que cela ne veut pas dire que ce Royaume-Uni sera moins uni ou moins européen. Je veux rassurer chacun sur le fait que, pour moi, le Royaume-Uni continuera à être une grande puissance européenne.
Et cette crise chez les conservateurs, Franck, elle n'est qu'une partie d'une crise beaucoup plus large.
Ouais, le Royaume-Uni semble partout se fissurer. Il y a d'abord l'Écosse qui a voté massivement pour le maintien dans l'UE, 62-38. Nicola Sturgeon, Premier ministre d'Écosse, estime que son peuple veut rester dans l'Union européenne et qu'il s'agit là d'un changement significatif de la situation depuis le référendum de 2014. Et pour elle, un nouveau référendum d'indépendance est hautement probable. La situation est aussi inquiétante en Irlande du Nord. L'UE aura bientôt une frontière terrestre entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, ce qui menace le processus de paix encore fragile et relance le débat sur l'unification de l'île. C'est l'opinion des républicains du Sinn Féin. À Londres, le leader travailliste Jeremy Corbyn, qui a fait lui aussi campagne sans grande conviction pour le maintien dans l'UE, est contesté dans son parti. Des députés présentent contre lui une motion de défiance. Ils le jugent responsable de l'échec. Beaucoup d'électeurs travaillistes ont en effet voté pour le Brexit, en particulier en Angleterre, dans le nord et le centre de l'Angleterre. Enfin, anomalie au Parlement, les députés majoritairement pro-UE vont devoir valider les différentes étapes du Brexit. Ça semble difficilement imaginable. On peut supposer de toute façon que de nouvelles élections générales se tiendront d'ici un ou deux ans.
Merci Franck Madvon, correspondant permanent de France Culture à Londres. Fabien Cazenave, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole de l'Union des fédéralistes européens et auteur du blog Fabien l'Européen, forcément un petit peu déçu ce soir par le résultat du vote. Vous gardez la dent dure contre les conditions posées pour participer à ce scrutin du Brexit, car les citoyens européens du Royaume-Uni n'ont pas pu voter.
En fait, ce qui est surtout très étonnant, c'est que par tradition britannique, les résidents venant du Commonwealth ont pu voter. C'est-à-dire que les Australiens, les Canadiens, les Pakistanais ont pu voter lors de ce référendum, mais pas les citoyens européens. Et on peut faire un parallélisme avec ce qui s'était passé lors du référendum en Écosse, où les Anglais avaient pu voter, bien sûr, mais également les citoyens européens. Et on avait même abaissé la possibilité de voter jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc là, pour le coup, entre le référendum écossais, qui était un référendum très très ouvert, et le référendum britannique, qui était un référendum beaucoup plus fermé, on peut se poser des questions, notamment quand c'est un sujet qui est excessivement européen. Pour avoir eu des citoyens français qui vivent à Londres, c'est un choc pour eux. Ils sont très étonnés et je peux vous dire qu'ils avaient bien envie de voter.
Merci Fabien Cazenave. On va vous retrouver tout au long de cette heure destinée à analyser ce vote des Britanniques. Les principales bourses européennes ferment sur de fortes baisses ce soir, de l'ordre de 8% à Paris, 3% à Londres et même 12% à Milan. Comme lors de la crise de 2008, les grandes banques centrales sont à la manœuvre pour calmer les marchés. Elles sont prêtes à intervenir si ces prochaines heures, la tempête provoquée par le Brexit ne s'éteint pas. Même chose pour la Banque d'Angleterre qui se dit prête à débloquer 200 milliards d'euros pour assurer la liquidité des marchés. Une crise boursière qui n'a pas l'air d'inquiéter les banquiers à Londres, Solène Lehen.
Les valeurs en forte baisse ce matin à l'ouverture de la bourse de Londres, la livre sterling qui chute, une volatilité extrême, pas de quoi perturber pour autant les banquiers londoniens, certes pressés dans les rues de la City, mais pas inquiets.
Ce n'est pas la panique, non, c'était une éventualité à prévoir. Nous avions des plans élaborés pour chaque cas de figure. On s'attendait tous à rester dans l'Union européenne, maintenant on va simplement mettre en place le plan qu'on avait prévu en cas de sortie. Chacun va faire maintenant ce qu'il a à faire, personne ne doit paniquer.
Ici, tous attendent une intervention de la Banque Centrale Européenne pour calmer les marchés et s'interrogent aussi sur leur avenir en Angleterre. La plateforme financière de Londres pourrait perdre de sa superbe. Pour Gilda Suri de la société de gestion Axiom, les entreprises et banques de la City ont plusieurs options.
Établir les opérations de back-office dans des pays d'Europe du Sud, on l'a vu par exemple au Portugal. Établir peut-être des opérations de gestion de fonds en Irlande, où la réglementation est assez accommodante. Et effectivement, peut-être pour certains banquiers, se rapprocher finalement de leurs clients, qu'ils soient en France, en allant à Paris ou en Allemagne, en allant à Francfort.
Les banquiers l'avouent hors micro, la City se prépare à des prochaines semaines très difficiles.
Et les ministres des Finances et présidents des banques centrales du G7 mettent en garde contre les possibles effets néfastes de mouvements de change excessifs. Pour Anton Brender, analyste financier chez Candrian, une société de gestionnaire d'actifs, un choc de confiance risque de toucher l'économie.
On pourrait craindre un choc de confiance. On est sûr que ce choc aura lieu. Ce ne sera même pas un choc de confiance, ce sera un choc d'incertitude en Angleterre qui va freiner fortement l'investissement. En Europe, normalement, il n'y a pas de raison que ça se passe, sauf si l'attitude des politiques européennes face à ce Brexit est suffisamment inconsistante pour que on se mette à douter, si vous voulez, de l'avenir de l'Europe, de la zone euro, etc. Si ce n'est pas le cas, ben, il n'y a pas de raison qu'on passe trop mal ce choc de confiance, d'autant plus qu'on aura un petit coup de pouce, normalement. S'il y a Brexit, on devrait voir l'euro baisser par rapport au dollar, tout simplement parce que la réaction des marchés, ce sera de douter de la construction européenne, pas complètement à tort. Et ça, cette baisse de l'euro par rapport au dollar, ça nous aidera un peu à passer ce cap. Donc l'idée, c'est qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un trop fort choc de confiance. Et ça reste pour nous le plus probable.
Des propos recueillis par Jean-Marc Chardon.
Et à Paris, Anne-François Hollande appelle à un sursaut européen.
Il se rendra lundi à Berlin pour rencontrer la chancelière Merkel et sans doute le président du Conseil italien Matteo Renzi afin d'évoquer ce qui doit être fait avant le Conseil européen de mardi et mercredi à Bruxelles. Le président de la République souhaite que la France reprenne l'initiative pour que l'Union européenne se renforce dans plusieurs domaines, la sécurité, la défense, l'investissement pour la croissance et l'emploi, l'harmonisation fiscale et sociale et le renforcement de la zone euro et de la gouvernance démocratique. Bonsoir Stéphane Robert.
Bonsoir Anne.
Demain, le président rencontrera également les responsables politiques français. Et cet après-midi, un conseil des ministres extraordinaire a été organisé. En gros, c'est le branle-bas de combat.
Oui, branle-bas de combat pour François Hollande qui consulte à tout va. Claude Bartolone et Gérard Larcher sont en ce moment même à l'Elysée, président de l'Assemblée et président du Sénat. Juste avant, à 16h, vous l'avez dit, s'est tenu un conseil des ministres extraordinaire afin d'examiner les conséquences immédiates de ce Brexit en termes économiques, notamment pour les entreprises françaises. Et puis demain après-midi, le chef de l'État recevra les chefs de parti, de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen, en passant par Nicolas Sarkozy. Tout ça, bien sûr, c'est dans la perspective d'une offensive européenne qui démarrera lundi à Berlin avec Angela Merkel et Matteo Renzi. Et puis le lendemain, direction Bruxelles pour un Conseil européen. Voilà pour la séquence. Sur le fond maintenant, c'est quoi le plan de bataille? Eh bien, François Hollande en a esquissé les contours ce midi lors d'une allocution depuis l'Elysée. Un sursaut est nécessaire, a-t-il expliqué. Il faut que l'Europe se recentre sur l'essentiel.
L'Europe doit porter des projets et non pas se perdre en procédure. Elle doit être comprise et contrôlée par les citoyens. Elle doit décider vite, là où on l'attend, et laisser une fois pour toutes aux États-nations ce qui relève de leur seule compétence. C'est le mandat que j'irai porter au Conseil européen mardi prochain.
Plus concrètement, François Hollande a plaidé pour une harmonisation fiscale et sociale entre les différents pays qui la composent. Il a aussi estimé nécessaire la mise en place d'une gouvernance démocratique de la zone euro. Et puis, nécessaire également une politique de défense et de sécurité aux frontières extérieures de l'Union. Bref, il veut une Europe qui ne s'occupe pas de tout et de n'importe quoi et qui laisse toute sa place aux États-nations. On est loin de l'idée d'une Europe fédérale. Et puis, une Europe qui ne soit pas seulement technocratique, mais qui donne également toute sa place aux citoyens. Alors, dit comme ça, ça paraît faire sens, seulement c'est ce qu'on dit déjà depuis de nombreuses années et c'est ce sur quoi les Européens n'arrivent pas à se mettre d'accord. Maintenant, ce Brexit et les risques qu'il entraîne en termes de détricotage de l'Union, est-il en mesure de changer les choses et de faire se rapprocher les différentes positions? On peut l'espérer, on peut aussi en douter. Réponse dans les jours ou plutôt dans les semaines qui viennent.
Merci Stéphane Robert du service politique de France Culture. Bonsoir Nicolas Dungan.
Bonsoir.
Spécialiste des relations internationales et enseignant à Sciences Po Paris, vous dites que la France a cessé d'être un moteur pour l'Europe depuis le non au référendum de 2005 sur le traité constitutionnel. Elle vous rassure, cette reprise en main apparente, en tout cas, de François Hollande?
Elle vient assez tard et en fait, on comprend assez mal pourquoi on aurait attendu le référendum en Grande-Bretagne pour le proposer. Et en plus, il n'y a pas, comme a été dit, d'idées nouvelles là-dedans, alors que, en fait, la France est le moteur du leadership du projet européen depuis le 9 mai 1950, la déclaration Schuman. Elle a perdu confiance en elle dans ce rôle après la réunification allemande. Il aurait fallu reconnaître tout de suite, quand l'euro a été introduit, qu'il y aurait deux cercles en Europe, un cercle, un noyau dur, l'eurozone, mais l'autre cercle non moins européen et non moins intéressé par le marché unique, etc. Et cela était particulièrement absent du discours de François Hollande aujourd'hui, donc on peut se poser la question de savoir si le projet d'avenir a un avenir.
François Hollande, ce matin, a également mis en garde contre le danger immense des populismes après ce vote anti-Europe en Grande-Bretagne et en France. Il est vrai que ce référendum pour le Brexit a trouvé une caisse de résonance dans certains partis politiques, Violette Voldoir.
Oui, Anne, c'est le moment ou jamais de semer l'idée d'un référendum dans la tête des Français et d'en profiter aussi pour affirmer ses postures politiques. Marine Le Pen ne s'y est pas trompée. En fin de matinée, la présidente du Front National a proposé un référendum de sortie de l'Union européenne après au moins 6 mois de négociations avec la Commission européenne. Ce serait, a-t-elle défendu, la refondation d'une Europe des nations. Au contraire de cette vision, Sylvia Pinel, présidente du parti radical de gauche, en a profité pour réaffirmer son amour du fédéralisme européen, centré sur une Europe des 6, avec un axe franco-allemand assez fort. Et puis il y a Jean-Luc Mélenchon. Le député européen a plaidé, lui, pour un référendum, mais pour sortir des traités européens, c'est-à-dire réviser le contrat social qui lie les populations européennes, mais sans positionnement clair, soit pour un modèle d'intégration entre États forts, soit pour une République européenne fédérale. À droite aussi, la question embarrasse. Nadine Morano a dénoncé ce matin ces populistes qui parlent de référendum. Et pour la vice-présidente des Républicains, Nathalie Kosciusko-Morizet, il est également urgent d'attendre. Elle n'évacue pourtant pas totalement l'idée d'une consultation, mais elle plaide pour un débat dans lequel chacun éclaircirait ses positions. Car aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion sur la place de la France dans l'Europe, à gauche comme à droite. Nicolas Sarkozy, lui, a esquivé la question référendaire pour se positionner en homme d'État. Il a demandé une réunion de chefs d'État et de gouvernements européens pour élaborer au plus vite un nouveau traité à 27.
Merci Violette Voldoir pour vos précisions.
Et pour la chancelière allemande, le vote en faveur du Brexit est un revers pour l'intégration européenne.
Angela Merkel s'est exprimée ce midi avant de recevoir, on l'a dit lundi, à Berlin, François Hollande et Matteo Renzi ainsi que le président du Conseil européen, Donald Tusk. La chancelière veut maintenant analyser la situation calmement. Elle le dit au micro de Cyril Sauvageau.
Der heutige Tag ist ein Einschnitt für Europa.
Le résultat de ce référendum est un coup porté à l'Europe. C'est un revers pour le processus d'unification.
Was die Folgen dieses Einschnitts in den nächsten Tagen?
Quelles seront les conséquences dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochaines années?
Das wird jetzt ganz entscheidend davon abhängen.
Cela dépendra de façon cruciale de la manière dont nous, les 27 autres États de l'Union européenne, nous nous montrerons capables dans cette situation de ne pas tirer des conclusions trop simples et rapides qui risqueraient de diviser encore plus l'Europe. L'Union européenne est suffisamment solide pour apporter les bonnes réponses.
Bonsoir Cyril Sauvageau. Nous vous retrouvons en direct de Berlin. Ce Brexit, c'est une blessure pour Angela Merkel. Elle n'aura finalement pas réussi à convaincre de sa politique au niveau européen. Une chancelière qui est d'ailleurs restée très discrète pendant la campagne.
Oui, peut-être aurait-elle dû s'engager davantage, prendre position plus clairement contre le Brexit. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Difficile à dire. Dans l'entourage de la chancelière, on explique qu'il y avait la volonté de rester en retrait pour ne pas donner le sentiment de forcer la main aux Britanniques. Cela dit, Angela Merkel s'est beaucoup investie pour faire aboutir les négociations avec David Cameron. Elle s'est rendue à la Chambre des communes. Elle a tenté tant bien que mal de plaider le maintien sans succès. Aujourd'hui, alors que l'Europe plonge dans la crise, la chancelière est montrée du doigt. D'un côté, il y a ceux qui dénoncent sa politique migratoire, accusée de faire monter les nationalismes. Il est vrai que la question des migrants a été l'un des thèmes majeurs de la campagne. Pour d'autres, c'est sa politique économique qui est en cause, des années d'austérité, de mainmise du ministre des Finances Wolfgang Schäuble sur l'Eurogroupe, des reproches récurrents et qui resurgissent aujourd'hui. Au sein même de la Grande Coalition, des fissures apparaissent. Pour le vice-chancelier social-démocrate Sigmar Gabriel, l'Allemagne doit ouvrir le débat sur l'austérité en Europe. Reste à voir quelle sera la réponse de la chancelière qui compte beaucoup sur la relance de l'axe franco-allemand pour ne pas être seule à la barre du navire européen dans la tempête.
La correspondance à Berlin de Cyril Sauvageau.
Et à Bruxelles, Anne, c'est bien la stupéfaction au niveau des institutions européennes.
Les eurodéputés se sont réveillés avec cette nouvelle qu'ils n'attendaient pas vraiment. Des réunions ont eu lieu ce matin au Parlement pour décider de la politique, de l'attitude désormais à adopter Lakshmi Lotha.
Au Parlement européen, c'est la surprise. Il faut digérer la nouvelle. La route sera difficile, prévient le président de l'institution. Pour Martin Schulz, le constat est simple.
Avec la Grande-Bretagne, l'Union européenne est plus forte. Sans la Grande-Bretagne, plus faible. Je suis déçu.
Pour les eurodéputés convaincus, c'est bien sûr un sentiment d'échec. Il faut faire attention au risque de contagion de l'euroscepticisme. Françoise Grosstete, vice-présidente du groupe de droite et centre-droit Parti populaire européen.
Le peuple britannique a écouté d'autres sirènes. On entend dire qu'aux Pays-Bas, il y aurait une demande de référendum. En France, le Front National demandera un référendum. De toute façon, il n'aura pas lieu. Et tant mieux. Tout ceci, c'est de l'agitation. Dans l'adversité, dans la difficulté, restons unis. C'est comme cela qu'on pourra s'en sortir.
Ce vote peut-il signifier la fin de l'Union européenne ? C'est le temps de la réforme, dit Guy Verhofstadt, président du groupe des libéraux et des démocrates.
L'Europe, comme ça fonctionne maintenant, ça ne va pas, ça ne marche plus. Il faut mettre sur les rails un nouveau projet, et c'est un projet qui sera, finalement, le projet des pères fondateurs. Il faut revenir à leurs idées initiales.
Pour discuter des prochaines étapes, le Parlement se réunira en session plénière extraordinaire mardi prochain.
Du côté de la Commission européenne, on souhaite entamer les négociations rapidement sur les conditions du retrait. Le président luxembourgeois, Jean-Claude Juncker, s'oppose à tout retard qui prolongerait les incertitudes. Il pointe du doigt la décision de David Cameron de retarder le début des négociations au mois d'octobre. Les précisions de Bruno Cadenne.
Goodbye Britain. Les institutions européennes veulent divorcer d'avec Londres le plus vite possible. Une rapidité dans un premier temps pour éviter une éventuelle crise monétaire et boursière. La protection de la zone euro est d'ailleurs le sujet numéro un aujourd'hui à la Commission ou au Parlement. Dans ce cadre, l'annonce de la démission de David Cameron en octobre inquiète Bruxelles. C'est en effet au Premier ministre britannique de déclencher l'article 50, celui qui gère un départ de l'Union européenne. Bruxelles ne peut rien faire tant que Londres n'a pas entamé la procédure. Or, si David Cameron ne part qu'en octobre, est-ce que les choses ne vont pas traîner et attendre le futur Premier ministre eurosceptique qui s'installera au 10 Downing Street ? Les institutions européennes ne veulent pas perdre de temps non plus pour des raisons politiques. Il s'agit d'éviter une contagion de référendums dans d'autres pays. Les dirigeants européens se sont donc rapidement adaptés. Depuis ce matin, ils parlent de protéger et d'améliorer l'Europe des 27, comme si le Royaume-Uni dans l'UE c'était déjà du passé. Cela crée une drôle d'ambiance dans le Parlement européen, avec d'un côté cette volonté de tourner la page et de l'autre ce mot géant écrit avec des feuilles de papier sur les fenêtres du bâtiment du Parlement. « We will miss you, vous allez nous manquer ».
Fabien Cazenave, vous nous accompagnez dans cette tranche d'information sur le Brexit, sur France Culture. Vous êtes fédéraliste. Le fonctionnement des institutions européennes, l'omniprésence de la Commission, par exemple, par rapport au Parlement, cela a joué un rôle dans ce vote au Royaume-Uni ?
En fait, je pense que vous faites une erreur d'analyse qui est souvent le cas quand on écoute nos politiciens français, quand ils nous parlent de ce qui se passe à Bruxelles. En fait, il n'y a pas d'omniprésence de la Commission ou du Parlement européen, il y a une omniprésence du Conseil européen, c'est-à-dire de nos chefs d'État et de gouvernement. C'est eux qui prennent les décisions. Quand on regarde ce qui se passe sur la Grèce, on a 22 sommets, enfin plus d'une vingtaine de sommets qui ont eu lieu, à chaque fois des sommets de la dernière chance. Ce sont les chefs d'État et de gouvernement qui n'ont pas voulu trouver de solutions réelles, fortes, parce qu'ils voulaient toujours préserver un petit peu de leur pouvoir, non seulement leur pouvoir, mais également un peu de pas donner trop d'argent à la Grèce pour justement manager la chèvre et le chou. Le Royaume-Uni aujourd'hui paye aussi des médias britanniques qui étaient clairement eurosceptiques, qui ont toujours fait la guerre à l'Europe, et en premier lieu Boris Johnson. Boris Johnson qui est un ancien correspondant à Bruxelles et qui a toujours fait en sorte de dire attention, il y a des choses qui ne vont pas, on va vous attaquer, on va vous voler à Bruxelles. La réalité, c'est ça. Après, c'est pas pour autant que les citoyens britanniques ne sont pas prononcés de manière éclairée. À mon avis, aujourd'hui, le vrai problème, c'est la perception qu'on a de l'Europe, de la réalité de l'Europe, où chacun essaie de tirer la couverture à soi et où la Commission refuse de dire qu'elle a un sous-rôle aujourd'hui en Europe.
On part maintenant aux États-Unis. Barack Obama doit s'entretenir dans les prochaines heures avec le Premier ministre britannique David Cameron. Il s'est exprimé cet après-midi par communiqué. Il assure que ce Brexit ne changera rien aux relations spéciales qu'entretiennent Londres et Washington. Mais on sait que Barack Obama s'était prononcé pour le camp du IN à Washington, la correspondance de Charlotte Alix.
Les démocrates, aussi bien Barack Obama qu'Hillary Clinton, tentent de ne pas laisser transparaître leur déception. Le président américain assure que l'Union européenne et le Royaume-Uni resteront des partenaires indispensables des États-Unis et évoque la relation spéciale entre Londres et Washington, un message qui contraste avec les propos qu'il avait tenus en avril lorsqu'il avait menacé le Royaume-Uni de passer en queue de peloton de ses relations commerciales avec les États-Unis en cas de Brexit. Aujourd'hui, Barack Obama joue l'apaisement. C'est aussi ce que fait Hillary Clinton, qui, comme le président américain dit respecter le verdict des urnes et affirme que la première priorité est d'empêcher que l'incertitude à venir ne fasse du tort aux travailleurs américains. Au passage, la candidate démocrate y voit la preuve qu'il faut un dirigeant calme, posé et expérimenté pour succéder à Barack Obama. Reste que ce cataclysme géopolitique pourrait surtout profiter à Donald Trump, qui surfe allègrement sur la vague populiste et nationaliste qu'on observe des deux côtés de l'Atlantique. Les Britanniques ont repris leur indépendance comme les Américains reprendront la leur en novembre, a-t-il déclaré en substance, depuis l'Écosse où il est en déplacement. Le milliardaire s'était prononcé pour le Brexit. Il salue aujourd'hui une nouvelle fantastique.
Des précisions signées Charlotte Alix. Une question de Mélanie Chalandon.
Oui, une question à Nicolas Dungan. Barack Obama a annoncé aujourd'hui que le Royaume-Uni et l'Union européenne resteraient des partenaires indispensables des États-Unis. Est-ce qu'il faut s'attendre néanmoins à une dégradation de la fameuse relation spéciale qui lie historiquement Londres et Washington?
Cette relation spéciale a été basée sur l'attente de la part des États-Unis que le Royaume-Uni jouerait un rôle croissant et de plus en plus important dans la construction européenne. Maintenant, cette possibilité-là est terminée. Et il faut savoir aussi que la relation transatlantique est conçue à Washington et plus largement aux États-Unis dans le cadre non pas de l'Union européenne mais de l'OTAN. Et il n'y a pas de supranationalité dans l'OTAN parce que chacun a un droit de veto, quoique ce soit les États-Unis qui aient vraiment le plus grand pouvoir. Et de toute manière, la Grande-Bretagne reste dans l'OTAN, comme la France, comme l'Allemagne. Et quand on parle de nos alliés européens, c'est dans cette conception de l'OTAN qu'on se place. Donc il est tout à fait possible de faire ce qu'a dit Barack Obama, sans pour autant que... Il a voulu donner un coup de pouce à son ami David Cameron, mais il était probablement moins attaché au Remain qu'à David Cameron lui-même.
Toujours concernant les États-Unis, le démocrate Bernie Sanders rencontrera Hillary Clinton mardi. Le sénateur du Vermont, qui jusqu'à présent refusait de se rallier à la candidate démocrate à la présidentielle, a annoncé qu'il voterait pour elle afin de battre le républicain Donald Trump. C'est dans ce climat d'incertitude économique autour du Brexit, dans un climat social toujours tendu en France, que le gouvernement vient de publier les chiffres du chômage pour le mois de mai. Des chiffres qui ne sont pas très bons, Jean-Marc Chardon, en tout cas, après 2 mois consécutifs de baisse, l'embellie ne se précise pas.
Oui, l'embellie, par définition de dure guerre, enfin, elle aurait tout de même pu se prolonger un peu, c'était l'espoir du gouvernement, mais on le savait fragile cet espoir, car le troisième mois, c'est le mois de trop. Quand on assiste à une série de 2 mois consécutifs, c'est déjà pas mal. Alors que s'est-il passé? Au ministère du Travail, on incrimine les divers événements du mois de mai. Divers sont déclinés lesquels? On songe a priori aux perturbations de l'activité économique sur fond de grève, dans les transports, l'énergie notamment. C'est un fait que beaucoup d'entreprises, et singulièrement de PME, TPE, ont montré des signes d'hésitation et reporté tout simplement leur plan de recrutement. La vraie question maintenant est de savoir si le printemps économique qui avait été annoncé n'a pas été brouillé par ces mouvements sociaux à répétition, alors que l'on a vu ces derniers mois l'emploi repartir sérieusement dans le secteur privé avec plus de 40 000 nouveaux postes depuis le début de l'année. Finalement, la seule bonne nouvelle sur ce mois, c'est que le chômage chez les seniors, lui, continue de se replier. Ça fait 8 ans qu'on n'avait pas vu une baisse du chômage prolongée chez les seniors. Pas de quoi pour autant assurer que l'inversion du chômage est imminente, l'inversion de la courbe. Pour cela, il faudrait que la confiance dans l'avenir se confirme.
Merci Jean-Marc Chardon. Et puis on referme ce journal avec le Conseil constitutionnel. Il a validé ce matin le cumul des poursuites administratives et pénales en matière fiscale dans les affaires Cahuzac et Wildenstein, le marchand d'art poursuivi lui aussi pour fraude fiscale. L'ex-ministre du budget, contraint à la démission après la révélation de son compte caché à l'étranger en 2013, avait déposé une question prioritaire de constitutionnalité en février dernier, ce qui avait suspendu son procès. Bonsoir Florence Durand.
Bonsoir.
Le procès va donc reprendre le 5 septembre.
Oui, en l'occurrence, Jérôme Cahuzac sera jugé non seulement pour blanchiment, mais également pour fraude fiscale. C'est uniquement ce volet-là du procès qui était suspendu à la décision du Conseil constitutionnel. Les 9 sages ont donc débouté, les époux Cahuzac et la famille Wildenstein. Pour soutenir cette question prioritaire de constitutionnalité, leur conseil s'était appuyé sur le même élément fondateur du droit français, le non bis in idem. On ne juge pas 2 fois une même personne pour les mêmes faits. Or, les époux Cahuzac ont déjà accepté un redressement redressement majoré de 2 300 000 euros. C'est la sanction de l'administration fiscale, sanction administrative. Pouvait-on dès lors engager aussi des poursuites pénales? Eh bien, le Conseil constitutionnel répond clairement oui. Oui, donc, au cumul de ces fonctions, de ces sanctions, avec toutefois une réserve d'interprétation. Ces sanctions pénales ne s'appliquent qu'aux cas les plus graves de dissimulation frauduleuse, grave en raison du montant de la fraude, de la nature des agissements de la personne ou des circonstances de leur intervention. Quant à savoir où placer le curseur pour d'autres affaires à venir, par exemple, les sages ne l'ont pas fait parce que, explique un conseiller, en 10 ans davantage, ils seraient sortis de leur rôle. Cela dit, la question ne se pose guère dans l'affaire Cahuzac, encore moins pour les héritiers Wildenstein, à qui le fisc réclame quelque 500 millions d'euros. Mais à défaut d'un texte inscrit dans le marbre de la loi, le Conseil constitutionnel vient de valider aussi les pratiques en cours. L'an passé, sur 40 000 redressements fiscaux, 1 000 000 de dossiers ont été transmis à la justice pénale.
Les précisions de Florence Turme. La météo est orageuse. 31 départements du nord-est au sud-ouest placés en vigilance orange pour orages violents. La fin de l'alerte est prévue demain matin vers 6 heures.